Bonjour à tous et bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance qui vous propose cette semaine, à l'occasion de l'édition nouvelle des œuvres de Molière dans la bibliothèque de la Pléiade et sous la direction de Georges Forestier, de réentendre tout simplement les 5 émissions qu'on avait consacrées au génial Molière en avril 2009. Une rediffusion qui sera suivie tous les jours d'un journal inédit en revanche, puisqu'Adèle Van Rett recevra toute la semaine successivement 5 interprètes de la pensée libérale. Suite ce mercredi d'une semaine sur Molière dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après Georges Forestier, venu lundi vous parler du misanthrope. Après Michel Rossellini, venu hier, vous raconter les femmes savantes. Avant Jacques Lassalle, venu demain, vous parler du Tartuffe. C'est le philosophe, professeur, traducteur et auteur Jean-Loup Rivière qu'on ne vous présente pas davantage. Sinon pour dire qu'il est entre autres avec Jacques Lassalle, l'auteur de Conversations sur Don Juan, paru chez POL. Jean-Loup Rivière donc, qui vient aujourd'hui nous parler des farces. De Scapin évidemment, mais aussi peut-être de Sganarelle, le cocu imaginaire, et du mariage forcé, puisqu'après tout, l'un ne va pas sans l'autre.
À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva.
Bonjour Jean-Loup Rivière.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue au nouveau chemin de la connaissance. C'est de Scapin donc qu'on va parler, en tout cas pour commencer cette émission. On vient d'entendre ici André Roussin dans un enregistrement de juin 64, en Scapin donc. C'est Scapin qui fait son propre portrait, hein, c'est un autoportrait de Scapin qui rappelle, mais plus d'un siècle avant, les autoportraits que Figaro, le Figaro de Beaumarchais, donnera de lui-même. Est-ce qu'en un sens, vous approuvez cette généalogie? Est-ce qu'on peut dire de Scapin qu'il est l'ancêtre de Figaro?
Je ne sais pas si c'est l'ancêtre, mais il y a effectivement une comparaison qui est tout à fait pertinente, intéressante et intéressante à filer. Enfin, alors il se distingue, je dirais, par l'âge, parce que Scapin, c'est un voyou qui n'est pas loin de la retraite, alors que Figaro, au contraire, est au seuil de son métier de fabricateur de machines. Mais ils sont tous les deux des fabricateurs de machines.
Oui, fabricateur de machines, c'est quand même l'expression qu'on emploie pour qualifier Scapin. Hein.
Oui, oui.
Ce sens-là qu'on en parle. Et est-ce qu'il n'y a pas également dans ce un rapport à la destinée qui d'ailleurs ferait de Figaro un personnage plus moderne en un sens que Scapin, puisque Scapin reçoit du ciel. Hein, il dit « j'ai reçu du ciel tel talent », alors que Figaro, lui, au contraire, est celui qui dit « mais rien n'est plus bizarre que ma destinée, qu'est-ce qui est passé par la tête du ciel pour me donner un destin aussi bizarre ». En somme, Scapin reçoit du ciel ce que Figaro doit lui construire tout seul.
Oui, oui, oui. Alors effectivement, vous avez raison de dire que Figaro est plus moderne, parce que ça souligne que s'ils sont voisins par bien des traits, ils appartiennent à deux mondes absolument différents. Et ces deux mondes très différents, on pourrait les qualifier d'une façon assez simple, c'est que Scapin va fabriquer des machines, élaborer des ruses comme ça, pour obtenir quelque chose. Et il doit obtenir, non pas pour lui, mais pour les deux fils qu'il soutient.
Les deux fils un peu veulent de Argante, oui, et Géronte, qui sont Léandre et le nom du second, c'est Octave. Voilà, Léandre et Octave. Allez-y.
Et donc, il doit obtenir deux choses. D'abord, de l'argent, et ensuite que ces deux garçons un peu immatures obtiennent les femmes qu'ils désirent obtenir. et la machine qu'il va mettre en branle pour arriver à ces deux desseins, remplir ces deux objectifs, comme ça, est très clairement élaborée, suit un chemin que le spectateur peut suivre, etc. Et ça se termine bien d'une certaine manière, puisque on obtient à la fin ce qu'on voulait au début.
Et Scapin obtient le pardon des pères sous réserve qu'il meure.
Oui. Et alors, ce que je voulais dire, avant qu'on revienne là-dessus, c'est Figaro, c'est la même chose, sauf que c'est absolument différent, parce que ce qu'on obtient chez Figaro, c'est sans l'avoir voulu. C'est-à-dire que la fabrique de la machine de Scapin est une machine très, très déterminée, dont on suit absolument tous les fils. Alors qu'il y a plusieurs répliques comme ça que j'ai plus en tête dans le mariage de Figaro, où Figaro s'émerveille du fait qu'il ait obtenu ce qu'il voulait, alors qu'il avait employé un moyen qui n'est pas du tout celui qui a permis d'obtenir
ça va avec ce qu'on disait au début. Ça va avec ce qu'on disait au début. Il y a une part de contingence supérieure dans le Figaro de Beaumarchais. Il s'émerveille du hasard, alors que chez Scapin, il y a une espèce de Deus ex machina, un génie du vice ou de la fourberie maligne qui parvient à ses fins.
Oui. Et alors, il y a autre chose aussi qui est commun à Scapin et Figaro, c'est que les fils veulent de l'argent et obtenir les filles, mais dans la fourberie de Scapin, les deux femmes convoitées sont consentantes, Donc on pourrait considérer que c'est pas très compliqué d'obtenir une femme consentante, encore qu'on ne sait jamais. Mais enfin, la question, c'est qu'ils veulent obtenir les femmes qu'ils convoitent avec le consentement des pères. Au fond, ils veulent trouver des pères. Chacun des deux personnages veut trouver un père. Ce qui, ça, est un petit peu plus compliqué que d'obtenir une femme consentante.
Alors, allez-y.
Et Figaro trouve une mère. Mais absolument par hasard. C'est-à-dire qu'il y a dans Scapin un fil.
C'est vrai qu'à la fin de Figaro, il découvre qui est sa mère.
Il faut que les pères se déclarent comme pères et deviennent des pères à part entière, de fils. Et Figaro trouve une mère par hasard. Elle lui tombe du ciel comme les bourses qui lui arrivent entre les mains lui arrivent par hasard. Et ça distingue absolument, je crois, le monde de Molière, des Fourberies de Scapin, et le monde de Beaumarchais et de Figaro. Et on est effectivement plus proche du monde de Figaro, peut-être, que du monde, au fond, très déterministe de Scapin.
Oui, mais en même temps, si on continue de réfléchir autour de ce thème de la filiation, on peut trouver peut-être des proximités. Après tout, la phrase restée fameuse, hormis « sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur », la phrase restée fameuse dans le monologue de Figaro, je parle ici du mariage de Figaro et non pas du barbier de Séville, donc Figaro bis, Figaro 2, c'est le moment où il dit, où il s'en prend à ceux qui se sont simplement donné la peine de naître. Or, que dit Scapin dans la scène 4 de l'acte 2 à Léandre? Il lui dit, parlant à Léandre de son propre père, vous avez dit tout à l'heure que les deux fils se cherchaient des pères, et effectivement, à bon droit, Scapin dit, il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance, et vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. De sorte qu'il y a, là encore, un doute, la possibilité d'être d'une autre souche que celle qu'on vous attribue. Donc peut-être une esquisse de liberté entendue au sens, cette fois-ci, que la Révolution française ou que la philosophie des Lumières donnera cette liberté, non ?
Oui, et vous citiez cette réplique fameuse du mariage de Figaro. Je crois que c'est un autre point de distinction entre Beaumarchais et Molière, entre Figaro et Scapin, qui est que il n'y a sans doute pas dans Scapin et dans la farce en général du XVIIe ou antérieur, l'aspect de critique sociale qu'il peut y avoir, ou de philosophie politique, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans le mariage de Figaro. La farce a une... souvent, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas très bien toléré. Si la farce, d'ailleurs, n'est pas considérée souvent comme un genre bas ou un genre vulgaire ou un genre qui aurait moins d'importance, par exemple, que les grandes comédies de Molière, c'est sans doute en raison de cette absence de ce qu'on pourrait appeler une pensée politique ou une critique sociale. La farce est, a une amoralité absolument constitutionnelle.
C'est ce qui fait, par exemple, que les femmes savantes ne sont pas une farce.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Parce que c'est une pièce politique.
Il n'y a pas de jugement dans la farce. C'est-à-dire, il n'y a pas de la grande comédie de Molière ou celle de Figaro. Au fond, commente les valeurs. La farce, pas du tout. Elle abolit, au fond, la distinction qu'il pourrait y avoir entre une vertu et un vice, quoi. Alors, les grands moralistes français renversaient les valeurs. Je dirais que la farce, et notamment celle de Molière, ignore leur classement et leur hiérarchie, quoi.
On trouve cette ambivalence, cette abolition de la morale ou des phénomènes moraux dans la farce, dans le simple mot de fourberie, non ? Puisqu'après tout, quand on parle de fourberie, quand on dit de quelqu'un qu'il est un fourbe, ça peut être la pire injure, comme ça peut être une appellation un peu tendre à l'endroit de quelqu'un, par exemple Louison qui fait la fourbe auprès d'Argan quand elle contrefait la morte, ou quand elle lui fait croire qu'elle ne sait pas ce qu'Argan essaie de lui faire dire. Il y a un peu de tendresse dans la fourberie. Est-ce que finalement le mot de fourberie en lui-même ne contient pas toute cette amoralité, absence de moralité qui est à l'œuvre dans la farce ?
Absolument, il y a quelque chose de tout à fait inhumain, je dirais, dans la farce, dans la mesure où elle l'expose. Elle met en œuvre, elle développe ce qu'on appelait tout à l'heure une machine, quoi. Et donc les personnages sont en quelque sorte un peu déshumanisés. Et c'est ce que beaucoup de critiques d'ailleurs ont remarqué, en disant voilà, dans les farces du début de la carrière de Molière, au fond on est plus du côté d'un type ou d'un stéréotype plutôt que du côté d'un personnage. Dans la grande comédie, alors, on aura des personnages qui seront psychologiquement et humainement plus élaborés. Dans la farce, pas du tout. On a quelque chose, une sorte de figure, de figure quasiment de marionnette. Donc un personnage un peu déshumanisé par le fait qu'il est un type ou un stéréotype, mais qui en réalité, le dispositif de la farce montre comment un type qui ressemble à un humain, qui a quelque chose d'humain, même s'il est en partie déshumanisé, est aux prises avec un certain nombre de dispositifs et de systèmes de contraintes. C'est dans cette relation entre le système de contraintes du dispositif auquel il a affaire et le dessin qui est le sien, que quelque chose va pouvoir se reconstruire à partir de la... je dirais, l'extermination des systèmes de valeurs.
C'est la raison pour laquelle, Jean-Louis Rivière, il n'y a pas de philosophie politique dans ce Capin, mais il y a de la philosophie. Il y a de la philosophie, et à tout pantin, à toute marionnette, il faut un deus ex machina. Je voudrais qu'on entende un très court extrait des fourberies de ce Capin. On est scène 4 de l'acte 1, donc au début, où Argante, Jacques Dufilho, est commenté par ce Capin, c'est-à-dire André Roussin. Argante ne sait pas que Scapin est là et qu'il l'observe. Et c'est très intéressant d'observer Scapin lui-même, qui est en position de Deus ex machina, qui prédit l'avenir, qui commente ce qu'il dit. Il est à la fois en position d'herméneute et en même temps en position de devin. Et j'allais dire presque, pour reprendre un terme cartésien, en position de malin génie. On va entendre cet extrait et en parler avec vous.
A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là ?
Il a déjà appris l'affaire, et elle lui tient si fort en tête que tout seul, il en parle haut.
Voilà une témérité bien grande.
Écoutons-le un peu.
Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage.
Nous y avons songé.
Tâcheront-ils de manier la chose ?
Non, nous n'y pensons pas.
Ou s'ils entreprendront de l'excuser ?
Celui-là se pourra faire.
Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air ?
Peut-être.
Tous leurs discours sont inutiles.
Nous allons voir.
Ils ne m'entendront point à parler.
Ne jurons de rien.
Je saurai mettre mon pont d'artifice en lieu de fureté.
Nous y pourvoirons.
Jean
la fleur.
Jean Jean-Louis Rivière est notre invité aujourd'hui, à mi-chemin d'une semaine que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à Molière, au nom du seul plaisir de parler de Molière et des chefs-d'œuvre que nous évoquons cette semaine. On a parlé du misanthrope, on parlera du Tartuffe, on a parlé des femmes savantes, on parlera du malade imaginaire et on parle aujourd'hui des fourberies de Scapin en votre compagnie. Donc Jean-Louis Rivière, est-ce que vous reprenez à votre compte l'expression de malin génie pour qualifier Scapin justement dans cette position-là?
Oui, ça on peut absolument dire que c'est un malin génie avec tout ce que peut comporter de noble et de quasiment divin le terme de malin génie. Il y a une chose qui est intéressante à remarquer, c'est que les Faubourgs des Scapins sont de la même époque qu'une autre grande pièce de Molière qui est jamais jouée alors qu'elle est tout à fait passionnante, qui est Psyché, quoi. Et c'est assez intéressant de voir les rôles que Molière s'était réservés. Et dans Psyché, et dans les Faubourgs des Scapins. Dans les Faubourgs des Scapins, il joue Scapin, du latin scaparé, s'enfuir. Dans Psyché, il joue Zéphyr, qui est un vent, quoi. Donc il y a quelque chose de fluide, de rapide, d'évanescent dans les deux rôles qu'il se donne. Les deux pièces n'ont strictement rien à voir avec l'une.
C'est ce que j'allais vous dire.
L'autre.
Il n'y a pas plus différent pour le coup. Hein. Alors qu'il y a,
pourtant,
et d'ailleurs on va revenir dessus, il y a dans l'œuvre de Molière beaucoup de résonance.
Mais oui, et pourtant, si on se dit, tiens, voilà, Molière, cette année-là, il joue à la fois Zéphyr dans Psyché et Scapin dans Les Fourberies, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de commun entre Zéphyr et Scapin? On peut le trouver si on imagine que. L'un et l'autre, Zéphyr qui s'occupe des amours, d'amour et de psyché, et qui cherche à éviter la vengeance.
Amour, c'est Eros, hein, c'est amour d'Eros et psyché.
Personnage,
oui.
Amour, oui. Et puis d'éviter les colères de Vénus, etc. En réalité, Scapin et Zéphyr, dans ces deux pièces-là, ont tous les deux un rôle d'entremetteur, d'intermédiaire, et sont chargés d'arranger comme ça les affaires amoureuses qui ne sont pas les leurs. Et on voit bien que on pourrait très bien imaginer que ces deux personnages-là, très différents dans deux pièces très différentes, soient tous les deux comme une sorte de réincarnation ou d'incarnation ou de figuration d'Hermès. Hermès, qui était le dieu de l'éloquence, du commerce, des voleurs, de
oui.
La fraude.
Et c'est celui qui avait des sandales ailées.
Voilà, c'est ça, absolument. Et qui, donc, avait ce caractère fuyant ou venteux comme ont Scapin et Zéphyr. Donc, l'expression de malin génie, bon, est tout à fait adéquate parce qu'il y a quelque chose d'Hermès. C'est ce vieux voyou napolitain au bord de la retraite qu'est Scapin, ou ce personnage un peu figurine de frise qu'est le Zéphyr, le vent.
En somme, donc, vous faites un parallèle
de l'Antiquité. Et donc, sans que ça apparaisse, mais ça existe à l'intérieur des pièces, il y a quelque chose d'un traité philosophique, aussi bien dans Psyché que dans Scapin, et comme je le crois, dans toute farce, et notamment celle de Molière.
Alors effectivement, une dimension philosophique dans la farce, ça on va rester dessus. On va rester également d'ailleurs un instant avec vous, Jean-Louis Rivière, sur les résonances à l'œuvre dans le travail de Molière. Vous avez pointé qu'entre deux pièces aussi différentes que Scapin et Psyché, qui n'ont en commun que d'avoir été écrites finalement la même année, il y avait le point commun de cet élément évanescent qui était le vent ou la possibilité de scapare, hein, de s'enfuir. En revanche, il y a des résonances beaucoup plus explicites chez Molière, et on s'est amusé au Nouveau Chemin en travaillant pour les besoins de ces émissions sur Molière, en travaillant sur les textes eux-mêmes, on a observé qu'il y avait des scènes qui étaient non seulement en écho l'une avec l'autre, des expressions qui revenaient, mais même parfois des dispositifs scéniques qui sont rigoureusement identiques. Et c'est notamment le cas entre Scapin et le malade imaginaire. Et je vous propose d'entendre coup sur coup, un extrait de la scène 4 de l'acte 1, dans lequel Scapin essaie de convaincre, je crois que c'est Géronte, de rompre le mariage que Léandre a fait, et de le comparer avec la scène 5 de l'acte 1 du Malade imaginaire, dans laquelle Toinette, parlant à Argan, lui dit « Mais non, vous n'allez pas donner votre fille Angélique au jeune Diafoirus. » Les deux scènes se ressemblent étrangement et c'est à ce titre qu'on les juxtapose.
Rompre ce mariage ?
Oui.
Vous ne le romprez point ?
Je ne le romprai point ?
Non.
Quoi ? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils ?
C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord.
Il n'en demeurera pas d'accord ?
Non.
Mon fils ?
Votre fils ! Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte ? Et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses ? Il n'a garde d'aller avouer cela, ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous.
Je m'en moque de cela.
Et il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé.
Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'il dise le contraire.
Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas.
Oh, je l'y forcerai bien.
Il ne le fera pas, vous dis-je.
Il le fera ou je le déshériterai.
Vous ?
Moi.
Bon.
Comment bon ?
Vous ne le déshériterez point.
Je ne le déshériterai point ?
Non.
Non ?
Non.
Ouais ! Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai pas mon fils.
Non, vous dis-je.
Qui m'en empêchera ?
Vous-même.
Moi ?
Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là.
Je l'aurai.
Vous vous moquez.
Je ne me moque point.
La tendresse paternelle fera son œuvre.
Elle ne fera rien.
Oui, oui.
Je vous dis que cela sera...
Bagatelle.
Il ne faut point dire bagatelle. Hein.
Mon Dieu, je vous connais. Vous êtes bon naturellement.
Je ne suis point bon et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Va-t'en, Pandard. Va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce.
Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander.
Je vous remercie. Pourquoi faut-il qu'il soit fils unique ? Et que n'ai-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire m'en héritière ?
Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Et elle n'est point faite pour être madame Diafoirus.
Et je veux, moi, que cela soit.
Fille, ne dites pas cela.
Comment que je ne dise pas cela ?
Et non.
Et pourquoi ne le dirais-je pas ?
On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites.
On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée.
Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas.
Je l'y forcerai bien.
Elle ne le fera pas, vous dites ?
Elle le fera ou je la mettrai dans un couvent.
Vous ?
Moi.
Bon.
Comment bon ?
Oh, vous ne la mettrez point dans un couvent.
Je ne la mettrai point dans un couvent ?
Nous ?
Non ?
Non !
Ouais ! Voici qui est plaisant, je ne mettrai pas ma fille dans un couvent, si je veux !
Non, vous dis !
Qui m'en empêchera ?
Vous-même ! Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là !
Je l'aurai !
Vous vous moquez !
Je ne me moque point !
La tendresse paternelle vous prendra !
Elle ne me prendra point !
Une petite larme ou deux, des bras jetés au cou, mon petit papa mignon prononcé tendrement sera assez pour vous toucher !
Tout cela ne fera rien !
Oui, oui !
Je vous dis que je n'en déborderai point !
Bagatelle !
Il ne faut point dire bagatelle !
Mon Dieu, je vous connais ! Vous êtes bon, naturellement.
Je ne suis pas bon et je suis méchant quand je veux.
Doucement, monsieur. Vous ne songez pas que vous êtes malade.
Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis.
On aurait pu ajouter, Jean-Louis Rivière, à cet extrait, un autre extrait de Dorine persuadant Orgon qu'il ne donnera pas sa fille, Marianne, je crois, à Tartuffe. C'est finalement la même affaire. Que signifie chez Molière, dans sa façon même de travailler d'ailleurs, le fait qu'on ait comme ça des scènes qui, au mot près, hein, se ressemblent de façon stupéfiante ?
C'est parce qu'il y a une... Ça rejoint l'interrogation profonde qui parcourt toutes les pièces de Molière et qu'on pourrait définir ainsi. Ce qui me frappe dans les deux extraits que vous avez rapprochés, et le rapprochement est effectivement très, très frappant, quoi, c'est qu'il y a soit des exclamations, soit des interrogations. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans la manière de dialoguer ou de parler, tout simplement, une place de plus en plus réduite est faite à ce qui est l'usage ordinaire de la parole, qui est de prononcer des paroles assertives. Là, on s'exclame, c'est-à-dire c'est quelque chose d'une émotion qui se traduit dans le langage, où on s'interroge, et on s'interroge en répétant l'interrogation, comme ça, comme, ce qui donne l'aspect comique à la scène, comme si on ne pouvait plus compter sur la parole, sur le langage, comme ça, c'est-à-dire que...
Comme si également, pardonnez-moi, le fait de contredire quelqu'un, enfin, pour contredire quelqu'un, il suffisait de répéter ce qu'il dit.
Oui. Alors ça, c'est aussi un mouvement ou un processus de désubjectivation, hein, qu'on retrouve aussi, par exemple, dans les quiproquos très fréquents dans les pièces de Molière, où un personnage vient parler à un autre personnage de lui en l'ignorant qui il est, quoi. C'est-à-dire, c'est pas c'est Horace...
On trouve ça dans l'Avare en permanence, d'ailleurs. La flèche ne cesse de faire ce genre de bévue et d'informer Harpagon de tout ce qui se passe.
C'est-à-dire que tout d'un coup, celui qui pourrait dire « je » devient l'objet d'un « il », quoi. Il est, à la lettre, désubjectivé. Et je disais que c'est peut-être, au fond, la grande affaire de Molière, et toutes ces comédies seraient des variations sur le drame de l'être parlant. Quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le langage ? Le langage étant ce qu'il est, c'est-à-dire par exemple, ne portant pas en lui la distinction entre le vrai et le faux. Quoi. Ça, c'est l'histoire du misanthrope. Hein. Donc, la seule chose qui définit notre humanité essentiellement, c'est le fait que nous sommes des êtres parlants et nous ne pouvons pas faire confiance à ce qui définit notre humanité. Quoi.
Mais Jean-Loup Rivière, pardonnez-moi, mais ça c'est passionnant. Ce que vous dites est passionnant, mais est-ce que de façon plus prosaïque, ça ne signifie pas tout simplement que Molière avait dans sa poche, comme tout bon poète, des canevas qu'il recyclait à tour de bras au gré des pièces et selon le goût de son public ?
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est un des intérêts que je trouve à la farce en général et à celle de Molière en particulier, c'est que très souvent, ce sont des pièces qui sont peu estimées en raison du côté élémentaire des canevas, alors que je trouve que c'est justement ça qui est extraordinairement intéressant, parce qu'on a dans une farce, on peut percevoir et intellectuellement, sensiblement un canevas, c'est-à-dire une structure dans sa pureté quasiment adamantine. Enfin, il y a quelque chose d'une clarté extraordinairement grande de la farce chez Molière, notamment. Quoi.
Alors Molière,
Et au fond, enfin, il est comme tous les artistes, c'est-à-dire il y a une idée, il y a une question, et les canevas servent à opérer des variations pour retourner et répéter la question. Mais quant à la question du langage, au fond, on pourrait presque dire que toute l'œuvre de Molière pourrait être sous le titre de ses répliques d'Alceste, point de langage, point de société. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est animé par cette espèce de mouvement, point de langage, point de société, à savoir que s'il n'y a plus de langage et plus de société, il n'y a plus d'humain. Et pourtant, c'est vers ça qu'on tend, ou qu'Alceste tend, c'est vers ça que tout un chacun peut avoir la tentation de pencher, tout en sachant que c'est absolument impraticable. Le fait qu'Alceste reste là, enfin, il dit qu'il s'en va, mais il reste là, parce que... On peut crier point de langage, point de société, mais on ne peut pas le faire.
Mais surtout, Alceste ne pourrait pas promettre de s'en aller s'il était déjà parti. Il a besoin de témoins, évidemment, comme le misanthrope a besoin des autres, comme de l'air qu'il respire. Il faut des témoins à sa misanthropie, à sa phobie des autres. Mais revenons à Scapin, justement. Ouais. Quand Molière ne se plagie pas lui-même, il plagie les autres. Hein, puisqu'il y a un emprunt fameux, hein, historiquement fameux, de Molière. Ouais. Hein, Molière a piqué la meilleure scène de Scapin à Cyrano de Bergerac, non pas celui de Rostand, mais le vrai Cyrano de Bergerac, ce qui vaudra d'ailleurs un des plus beaux alexandrins qui résume l'existence de Cyrano dans la bouche, alors cette fois-ci de Rostand, enfin dans le texte de Rostand, il dira « Molière a du génie et Christian était beau ». Et effectivement, toute la vie de Cyrano est résumée là-dedans, hein, celui qui aura fait du bien aux autres plus qu'à lui-même. Et le pédant joué, la pièce de Cyrano de Bergerac, est une pièce dans laquelle se trouve pour la première fois la fameuse réplique que « Diable !» diable allait-il faire dans cette galère ? Alors, pour le plaisir de l'entendre, on a fait quelque chose d'un peu rare au Nouveau Chemin de la Connaissance, c'est-à-dire qu'on va diffuser et entendre in extenso la fameuse scène de la galère, hein, le fameux « Que diable allait-il faire dans cette galère ?», la scène 7 de l'acte 2 de Scapin, à la suite de quoi on va entendre un texte de Clément Rosset qui commente cette scène-là et sur lequel je voudrais avoir votre sentiment, Jean-Loup Rivière.
Oh ciel, oh disgrâce imprévue, oh misérable père, pauvre Géronte, que feras-tu ?
Que dit-il là de moi avec ce visage affligé ?
N'a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte ?
Qu'y a-t-il, Scapin ?
Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ?
Mais qu'est-ce que c'est donc ?
En vain, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver !
Me voici !
Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas deviner !
Oh là ! Es-tu aveugle que tu ne me vois pas ?
Ah, monsieur ! Oh, il n'y a pas moyen de vous rencontrer !
Mais il y a une heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a ?
Monsieur !
Quoi ?
Monsieur, votre fils...
Eh bien, mon fils...
est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde.
Et quelle ?
Je l'ai trouvé tantôt tout triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit ou vous m'avez mêlé assez mal à propos. Et cherchant à divertir cette tristesse, nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé, il nous a fait mille civilités, nous a donné la collation, nous avons mangé des fruits les plus excellents qui se puissent voir et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde.
Mais qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela ?
Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangeons, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et moi, on va vous dire que si vous lui envoyez par moi tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger.
Comment diantre, 500 écus ?
Oui, monsieur. Et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures.
Oh, le pandard de Turc m'assassinait de la façon.
C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse.
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Et il ne songeait pas à ce qui est arrivé.
Va-t'en, Scapin. Va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui.
La justice en pleine mer, vous moquez-vous des gens ?
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes.
Il faut, Scapin. Il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle.
Quoi, monsieur ?
Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande.
Monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils ?
Que diable allait-il faire dans cette galère ?
Ne devinez pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il m'a donné que 2 heures.
Tu dis qu'il demande ?
500 écus.
500 écus ? Y a-t-il point de conscience ?
Vraiment, oui, de la conscience à un Turc.
Sait-il bien ce que c'est que 500 écus ?
Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres.
Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval ?
Ce sont des gens qui n'entendent point de raison.
Mais que diable allait-il faire à cette galère ?
Il est vrai, mais quoi ? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez.
Tiens, voilà la clé de mon armoire.
Bon.
Tu l'ouvriras.
Fort bien.
Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier.
Oui.
Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne. Et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils.
Monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas d'enfant de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné.
Mais que diable allait-il faire à cette galère ?
Oh, quelle parole perdue, laissez-la cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que si tu ne manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père.
Attends, Scapin. Je m'en vais acquérir cette somme.
Dépêchez donc vite, monsieur. Je tremble que l'heure ne sonne.
N'est-ce pas 400 écus que tu dis ?
Non, 500 écus.
500 écus ?
Oui.
Que diable allait-il faire à cette galère ?
Vous avez raison, mais hâtez-vous.
N'y avait-il point d'autre promenade ?
Cela est vrai, mais faites promptement.
Maudite galère !
Cette galère lui tient au cœur.
Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Et je ne croyais pas qu'elle dût m'être si tôt ravie. Tiens... Va-t'en racheter, mon fils ?
Oui, monsieur.
Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat.
Oui.
Un infâme.
Oui.
Un homme sans foi. Un voleur.
Laissez-moi faire.
Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits.
Oui.
Que je ne les lui donne ni à la mort, ni à la vie.
Fort bien.
Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger.
Oui.
Va vite requérir mon fils.
Oh là, monsieur !
Quoi ?
Où est donc cet argent ?
Ne te l'ai-je pas donné ?
Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche.
Oh. C'est la douleur qui me trouble l'esprit.
Je le vois bien.
Que diable allait-il faire dans cette galère ? Maudite galère ! Traître de Turc ! À tous les diables !
Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quittant vers moi. Et je veux qu'il me perde une autre monnaie, la posture qu'il m'a faite auprès de son fils.
Il est vrai que Géronte accepte à 7 reprises, ou du moins feint d'accepter, le fait réel qui le contrarie, la capture de son fils. Lequel fait n'est bien entendu qu'une invention de Scapin destinée à l'escroquer, mais ça n'a pas d'importance. Et il essaye d'y remédier par des parades absurdes. Scapin n'a aucune peine à balayer les objections creuses et les faux espoirs, réfutant coup après coup, comme aux échecs, chacune des parades naïves de son adversaire. Et c'est alors qu'à chaque fois qu'il est ainsi réfuté et piégé par le réel que lui présente Scapin, Géronte lui oppose cette objection aussi vieille qu'inefficace, qui consiste à en revenir au passé pour se libérer du présent. Mais que diable allait-il faire dans cette galère ? Cette objection consiste d'abord, il va de soi, à contester l'être qui est au nom de la possibilité d'un autre être, parfois plus plausible et souvent plus souhaitable, à dire que ce qui s'est passé aurait pu bien ne pas se passer et ne peut s'autoriser d'aucune nécessité. Et Géronte ne se fait pas faute de se plaindre de cette circonstance fâcheuse qui aggrave à ses yeux le cas et en quelque façon le disqualifie, que le malheur qui l'accable n'était ni prévisible ni, et encore moins, inévitable. Car enfin, quelle nécessité, dis-moi Scapin, a conduit mon fils au bord de cette galère ? N'y avait-il point d'autre promenade ? Il semble cependant que cette objection de Géronte touche à une aberration d'esprit plus profonde, consistant à estimer confusément qu'une réalité présente n'est pas absolument réelle dès lors qu'elle n'est pas aussi une réalité passée. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Il s'y trouve maintenant, peut-être, mais il n'y était pas tout à l'heure, c'est certain. L'argument sous-entendu par le refrain plaintif de Géronte s'appuie sur la conception philosophique d'une réalité en soi, qui évoque la théorie platonicienne des idées. N'est réel que ce qui a toujours été réel, n'est vrai que ce qui a toujours été vrai. Et c'est la conception du vrai à laquelle se raccroche Géronte en désespoir de cause, estimant obscurément que ce que lui rapporte Scapin à propos d'aujourd'hui ne saurait être totalement vrai, puisqu'il en allait tout autrement hier. On croirait entendre ici le dialogue du muletier et de la jeune indienne dans la péricole d'Offenbach. Jean-Louis Vierre est notre invité pour parler de Scapin, aujourd'hui, dans une semaine que les nouveaux chemins de la connaissance consacrent à Molière. Jean-Louis Vierre, comment comprenez-vous l'interprétation que Clément Rosset donne dans les principes de sagesse et de folie de la fameuse scène, donc la scène 7 de l'acte 2, au cours de laquelle Géronte oppose l'argument du passé à l'objectivité du présent, de la réalité que lui présente Scapin?
Oui, c'est un texte extrêmement intéressant. Juste une chose peut-être avant de vous répondre tout de suite. Molière a très bien fait de voler à Cyrano de Bergerac la scène de la galère. Il en fait un usage parfait. La seule chose que je regrette, c'est que peut-être ça a empêché nos contemporains de mettre en scène le pédant joué de Cyrano de Bergerac, qui est une pièce absolument passionnante et que personne n'a jamais vu programmée dans un théâtre. Donc
Jean-Louis Vierre.
C'est pas Molière qui est responsable, mais enfin, voilà. Au contraire, la scène de la galère aurait dû inspirer un des metteurs en scène. C'est dommage. Dans ce texte de Clément Rosset que vous venez de lire, quelque chose que j'ai entendu comme faisant écho à ce dont on parlait auparavant sur la destruction des valeurs, c'est-à-dire que il y a pour Géronte quelque chose qu'opère la farce, qui est la disparition de ce qui garantit le vrai et le réel, quoi. Et effectivement, au fond, Géronte est peut-être comme le spectateur de la farce, c'est-à-dire que ce qui, dans la vie courante, nous sert à garantir le vrai et le réel, par l'opération théâtrale et l'opération farcesque, ces choses-là disparaissent. Un petit peu comme quand, dans les mathématiques, on passerait d'un système de référence à un autre. Alors, tout d'un coup, il y a quelque chose qui tombe. L'autre point à quoi me fait penser... Ce texte, ça me fait penser à un dramaturge qui n'a strictement rien à voir avec Molière, qui n'est pas du tout de la même époque, qui est Tchekhov. Pourquoi est-ce qu'à propos de Molière et de la farce, j'évoque Tchekhov ?
Scapin et Tchekhov, après avoir fait Scapin et Psyché. Allez-y, Jean-Louis Rivière.
Non, c'est-à-dire qu'il y a... au fond, pour tout un chacun dans la vie quotidienne, l'imprévisibilité de l'avenir et l'évanescence du passé sont au moins des choses certaines. On peut s'appuyer sur cette évanescence et cette imprévisibilité. Il y a quelque chose qui est au fond plus problématique alors que c'est absolument tangible, qui est le présent, quoi. Et peut-être qu'une des fonctions que le théâtre remplit sans le savoir, mais dont on voit bien que beaucoup de pièces le réfléchissent, c'est d'arriver à fabriquer ce qui est tangible et pourtant peut-être soumis à la plus grande incertitude, qui est le présent, quoi. Au fond, le théâtre, c'est un art du présent, on le répète à juste titre très, très souvent, mais c'est un art du présent en tant qu'il fabrique du présent, parce qu'au fond, même si on peut considérer que le présent est un donné irréfutable, il est dans l'existence de tout un chacun, ce qui est peut-être de plus difficile à vivre. Le présent est peut-être plus difficile à vivre que l'avenir ou que le passé.
Et pourtant, on n'a pas le choix, ce dont témoigne évidemment l'impasse à laquelle Géronte est acculé. Mais voilà, le verbe qu'il faut employer ici, c'est présentifier. Ouais. Voilà. C'est exactement ça. Scapin présentifie les choses, il les rend présentes. C'est si vrai d'ailleurs que le fils n'est pas du tout prisonnier d'une galère turque. Il n'est pas du tout allé dans cette galère. Or, là où le spectateur est dans la même position que Géronte, c'est que Scapin le raconte si bien et avec tant de persuasion qu'on finit nous-mêmes par vouloir, par hésiter à donner 500 écus pour libérer le petit Léandre.
Oui. Alors je termine sur Tchekhov parce que la référence aura l'air un peu étrange. Les pièces de Tchekhov raconte des histoires qui n'ont strictement rien à voir avec les histoires que raconte Molière, mais qui sont aussi des histoires qui tendues comme ça par cette question de la fabrication du présent. Et on voit bien comment dans les pièces de Tchekhov, ce qui crée la distance et donc le commerce entre les personnages vient de la tension elle-même entre un passé qui est difficile, douloureux, traumatique. Et un avenir qui est incertain. Les trois sœurs se souviennent d'événements dramatiques familiaux tout en étant tendues vers l'idée d'aller à Moscou. Et la pièce se termine par le fait qu'on écoute de la musique. Bon, il se trouve que c'est de la musique militaire, mais de la musique quand même. C'est-à-dire quelque chose qui est une scansion du présent. Donc quelque chose comme du présent aurait été produit... dans Les Trois Sœurs, et on pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres pièces de Tchekhov. Et c'est cette opération-là que moi j'avais pas vue, mais que Clément Rosset repère très très bien, qui est dans la scène de la galère, quoi. C'est-à-dire qu'il faut fabriquer du présent.
Il faut fabriquer du présent et c'est toute la difficulté. Rien n'est plus difficile à admettre que ce qui existe existe et que ce qui n'existe pas n'existe pas. Tout le texte qu'on a lu de Clément Rosset vient juste après un commentaire de la tautologie parménidienne qui dit c'est la chose la plus facile à dire et la plus difficile à admettre. Ce qui existe existe, ce qui n'existe pas n'existe pas. Le paradoxe, c'est qu'il se sert d'une fiction de Scapin pour montrer que Scapin est un professeur de réalité, comme quoi on peut aimer la réalité et par là même adorer la fiction. J'en reviens, Jean-Louis Rivière, à ce que vous disiez de l'absence de morale dans la farce. Alors, le moment où on passe de la moralité à l'immoralité, c'est par exemple quand Scapin explique qu'il vaut mieux être marié qu'être mort. Une phrase dont on a un écho dans une autre pièce, on va en parler un petit peu maintenant, la pièce du cocu imaginaire, Sganarelle, ou le cocu imaginaire, qui est dans laquelle il y a un monologue, la scène 17 de la pièce en un seul acte du cocu imaginaire, monologue au cours duquel Sganarelle explique qu'il faut encore mieux, vaut mieux être encore cocu que trépassé. Voici le monologue de Sganarelle et on va revenir après avec vous quelques instants sur cette pièce qui est par ailleurs tout à fait géniale.
Courons donc le chercher, cependant qu'il m'affronte. Montrons notre courage à venger notre honte. Vous apprendrez, Marouf, la rire à nos dépens, et sans aucun respect, faire cocu les gens. Doucement, s'il vous plaît. Cet homme a bien la mine d'avoir le sang bouillant et l'âme un peu mutine. Il pourrait bien, mettant à front dessus à front, charger de bois mon dos, comme il a fait mon front. Je hais de tout mon cœur les esprits colériques et porte grand amour aux hommes pacifiques. Je ne suis point battant, de peur d'être battu, et l'humeur débonnaire est ma grande vertu. Mais mon honneur me dit que d'une telle offense, il faut absolument que je prenne vengeance. Ma foi, laissons-le dire autant qu'il lui plaira, au diantre qui pourtant rien du tout en fera. Quand j'aurai fait le brave et qu'un fer, pour ma peine, m'aura d'un vilain coup transpercé la bedaine, que par la vie lira le bruit de mon trépas, dites-moi, mon honneur, en serez-vous plus gras? La bière est un séjour par trop mélancolique et trop malsain pour ceux qui craignent la colique. Et quant à moi, je trouve, ayant tout compassé, qu'il vaut mieux être encore cocu que trépassé.
Jean-Louis Rivière.
Alors, Sganarelle, ou le cocu imaginaire, est une pièce de 1660, donc plutôt dans le début de la carrière de dramaturge de Molière. Et à ce propos, d'ailleurs, du cocu imaginaire, il y a une chose que j'avais remarquée un jour, c'est que il y a énormément, dans les farces et les pièces de Molière, des histoires de cocu, et où le nom, on vient de l'entendre, est prononcé, mais ils sont la plupart du temps imaginaires, quoi. Et la seule pièce où il y a un cocu qui n'est pas imaginaire...
C'est Georges Dandin.
C'est Georges Dandin. Le mot n'est pas prononcé. Donc le...
Oh si, je serais cocu si l'on y met ordre. C'est dans Georges Dandin. Ah, je serais bientôt cocu si l'on y met ordre. Quand il parle aux parents de Sautenville, au tout début de la pièce, il dit « Je serais bientôt cocu si l'on y met ordre ».
Ah oui. Non, ben alors c'est dommage parce que là, j'aimais bien l'idée que
le mot remplace la chose. Oui, c'est ça. Voilà, oui.
Mais pourtant, j'avais fait une vérification. Non, mais vous avez raison.
On revérifiera. Ben, je renvoie nos auditeurs à leur propre volume de Molière.
Vous avez raison.
Mais revenons sur le cocu imaginaire, celui-là.
Alors, c'est donc une pièce brève, une était d'ailleurs à la création, c'était donné avec une pièce de Rotrou, Venceslas, comme ça, donc une première levée de rideau, une première partie. Comme ça. Et c'est une pièce où on retrouve le caractère de diamant de la farce. C'est-à-dire qu'il y a une structure d'une très très grande clarté, immédiatement et sensible et intelligible. Et qui met, je crois, en évidence l'extraordinaire théâtralité de la farce. C'est-à-dire, par exemple, il y a une chose à quoi je suis très sensible dans la farce, qui est la fonction des objets. C'est-à-dire que les objets sont quasiment des acteurs. C'est pas du tout un élément, un assaisonnement décoratif. L'objet... Alors, dans Scapin, c'est un sac, dans Tartuffe, c'est une table, et dans Sganarelle ou le cocu imaginaire, c'est un portrait. Les objets, ils sont toujours comme ça, des opérateurs d'égarement, mais ils jouent un rôle, ils ont une présence dramatique très, très, très grande. Et le plaisir de la farce est lié, je pense, au plaisir de la théâtralité qui vient de l'usage des objets. Alors là, c'est l'histoire d'un portrait qui tombe, qui est ramassé et qui va faire en sorte que tout le monde va, chaque conjoint va douter de son conjoint ou de son promis ou de...
Alors, il y a deux personnages, il y a Célie et Lélie, là-dedans. Oui. Alors évidemment, c'est Clélie. Oui. Célie est amoureux de Lélie et réciproquement. Tout ça est une façon de se moquer de Clélie. C'est-à-dire le roman, en l'occurrence, d'abord l'histoire, puis le roman, l'histoire romaine de Madeleine Hélène Scudéry, qui est le livre dans lequel se trouve la fameuse carte du tendre. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que hier, Michel Rossellini, parlant d'Henriette dans Les Femmes Savantes, disait Henriette, en fait, c'est une lectrice de roman. C'est quelqu'un qui a lu Clélie, vraisemblablement. C'est une lectrice de roman. Et là, au début du Cocu imaginaire, il y a Gorgibus, le père, qui dit « Vous parlez de Dieu bien moins que de Clélie. Et ça le chagrine. En somme, est-ce que l'enjeu n'est pas ici un éloge implicite de la forme romanesque par Molière ?
Oui, alors oui, mais avec...
On a peu de temps pour répondre à cette question, mais allez-y quand même.
Avec une différence, et vous aviez raison de citer le début de Sganarelle, qui est la rapidité. C'est-à-dire qu'un des caractères de la farce, et notamment de Sganarelle, le cocu imaginaire, c'est que ça va très vite. Ce qui fait que ce qui importe dans la farce, ça n'est plus tellement le contenu thématique, le fait qu'il s'agisse d'un cocu ou d'autre chose, mais du fait que ça aille vite. C'est-à-dire, ça invite, je pense, le lecteur ou le spectateur, mais surtout le spectateur, à considérer la farce non pas pour son contenu psychologique, moral ou philosophique, mais par sa dynamique propre.
Et son aptitude à entrelacer des chimères.
Oui, mais qui ne sont pas reconnues comme tel, c'est-à-dire je pense que la farce est quelque chose qui nous invite à regarder cette œuvre théâtrale-là en particulier, au fond comme une œuvre abstraite. Il faut regarder une farce comme on regarde un Pollock. Et il y a dans la farce de l'action thinking, comme on parle d'action painting, je crois. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes. Un grand merci Jean-Loup Rivière d'être venu nous voir et de nous avoir parlé de Scapin. On a parlé également de Sganarelle ou le cocu imaginaire. Une édition d'ailleurs de Patrick Dandré qu'on recevra vendredi dans Les Nouveaux Chemins pour clore cette semaine en parlant du malade imaginaire. Édition Folio, donc du cocu imaginaire. On n'a pas parlé du mariage forcé, un grand regret. On aurait pu parce que c'est prodigieux. On le fera certainement une prochaine fois dans Les Nouveaux Chemins. À 10h50 sur France Culture, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. On continue notre semaine spéciale sur la pensée libérale aujourd'hui, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif colossal, dirigé par le philosophe Gilles Kevorkian et qui s'intitule « La pensée libérale, histoire et controverse » et qui fait l'objet de chacun des entretiens du journal de cette semaine pour essayer de refléter la diversité et la richesse de cette actualité éditoriale majeure sur le libéralisme. Alors on essaye toute cette semaine de cerner les enjeux majeurs de la pensée libérale, les difficultés à en proposer une définition univoque, les différences à la fois théoriques et historiques qui opposent les différents penseurs du libéralisme. Et je vous propose aujourd'hui de nous arrêter un instant sur un point précis et un point décisif pour comprendre ce qu'est la pensée libérale, à savoir la différence entre libéralisme politique et libéralisme économique. Et c'est le philosophe Michaël Biziou, à qui l'on doit deux contributions dans ce collectif, et qui est en duplex depuis Nice avec nous, qui va en quelques minutes nous expliquer la différence entre libéralisme politique pardon, et libéralisme économique. Bonjour Michaël Biziou.
Bonjour.
Alors, première question pour commencer, rentrer directement dans le vif du sujet, donc pour essayer de comprendre cette distinction, y a-t-il une unité du libéralisme politique et du libéralisme économique ? C'est-à-dire, doit-on les accepter ou les rejeter ensemble, Michaël Biziou ?
Oui, alors effectivement, là pour le coup, c'est le vif du sujet. Et c'est d'autant plus vif que c'est une question qui n'est pas simplement une question philosophique, une question abstraite, mais c'est une question qui donne lieu à beaucoup de politiques, parce qu'il y a beaucoup de polémiques, pardon, c'est un lapsus révélateur, beaucoup de polémiques parce qu'il y a des enjeux politiques derrière. Beaucoup de penseurs essayent de voir s'il y a ou non une unité du libéralisme économique et du libéralisme politique. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir si on doit accepter la démocratie avec l'économie de marché, avec le capitalisme, ou bien s'il y a plus ou moins de distance entre les deux, si on peut avoir des démocraties qui ne soient pas entièrement libérales, voire des démocraties qui puissent être socialistes. Mm-hmm. Alors il est évident qu'avec un tel enjeu, ça fait couler beaucoup d'encre. Pour ma part, je dirais que si on pose la question en termes d'unité, est-ce qu'il y a une unité entre les deux libéralismes ?
Enfin, en tout cas, il y en a une qui est évidente, c'est que quand même tous les deux ont pour concept clé la liberté, ça c'est sûr.
Oui, ça c'est sûr. Reste à savoir ce qu'on entend par liberté, parce que la liberté
voilà,
du citoyen...
Voilà, est-ce la même liberté dans le libéralisme politique et dans le libéralisme économique?
Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Ou pour parler en termes plus individuels, est-ce que la liberté du citoyen est la même que la liberté du marchand?
Voilà.
Est-ce que la liberté dont on fait preuve quand on va voter, est-ce que c'est la même que la liberté dont on fait preuve quand on va choisir un paquet de céréales dans son supermarché? Alors il y a des théories qui disent que oui, qui disent que finalement, aller voter dans le cadre d'une démocratie libérale au sens politique, c'est la même chose que faire ses courses. C'est-à-dire, c'est essayer de rechercher une offre de services publics qui corresponde à sa demande. Ça, ce sont des théories assez radicales qui plaident l'unité complète du libéralisme politique et du libéralisme économique, au point de penser que c'est vraiment le même modèle conceptuel, le marché, qui serait à l'œuvre à la fois dans le libéralisme politique et dans le libéralisme économique. Mais je pense qu'on peut mettre en doute ce genre de pensée de l'unité des deux libéralismes, parce que quand on regarde de près les différents auteurs libéraux du côté économique et du côté politique, en fait, même s'il y a des points communs, il y a aussi des écarts. Alors, tout dépendra de l'unité. Enfin, l'unité dépendra de si on insiste plutôt sur les points communs ou alors sur les divergences.
Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est que même si on admet la thèse que le libéralisme politique et le libéralisme économique, au fond, seraient deux versants d'un même courant, qu'ils formeraient une unité, que ces deux libéralismes n'en feraient qu'un, on a quand même l'idée, alors l'idée reçue, qui est sans doute un cliché, qui est sans doute très contestable, mais en tout cas, on a tendance à valoriser le libéralisme politique, c'est-à-dire le fait de privilégier la liberté dans la mise en œuvre de politique, alors que le libéralisme économique, lui, suscite beaucoup plus de réticence.
Oui, voilà, le libéralisme économique en ce moment, à cause de la crise économique que nous vivons, est plutôt décrié, même par les partis politiques qui essayaient de faire leur fond sur la promotion du libre marché. Même ces partis-là essayent de prendre leur distance. Ça me fait penser à un mot de Woody Allen qui n'a pas grand-chose avec le libéralisme, mais on pourrait l'appliquer au libéralisme. Woody Allen dit à un moment dans un de ses films, il dit « Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien ».
Voilà.
Eh bien, je pense qu'on pourrait dire la même chose du libéralisme, à la nuance près que Marx n'est pas mort, en tout cas pas dans le sens théorique, et par ailleurs que le libéralisme, finalement, ça ne le gêne pas de ne pas se sentir très bien, il n'a jamais prétendu se sentir très bien. Je veux dire par là que le fait qu'il y ait des crises économiques au sein du système capitalisme n'est certainement pas une objection à faire à une pensée qui, justement, est une pensée de la crise.
Alors, pour essayer de préciser cette articulation du libéralisme politique et du libéralisme économique, on peut s'appuyer sur votre contribution donc à cet ouvrage collectif qui est la pensée libérale dont on parle toute cette semaine. Votre contribution porte sur le jugement individuel face à l'État chez Locke et Smith. Alors, en quoi est-ce que ces deux auteurs peuvent nous permettre d'éclairer cette distinction entre le libéralisme politique et le libéralisme économique, Michael Bizio?
Oui, alors ces deux auteurs, je les ai choisis dans cette contribution parce que ce sont les deux pères fondateurs, si l'on veut, Locke, père fondateur du libéralisme politique, et Smith, père fondateur du libéralisme économique.
Donc Locke au 17e et Smith au 18e.
Hein, voilà, c'est ça. Et alors j'ai essayé de montrer qu'il y avait à la fois beaucoup de ressemblances et beaucoup de différences. Alors si l'on va du côté du ressemblance pour trouver une certaine unité, eh bien ce sont deux pensées qui résonnent en termes de droit de l'individu, c'est-à-dire que la liberté, dont vous avez bien noté que c'était le concept commun de libéralisme, la liberté est définie en termes de droit. Évidemment, toutes les traditions de pensée, le socialisme par exemple, ou le républicanisme, enfin pas le républicanisme, mais le communautarisme ou d'autres pensées, ne définiraient pas forcément la liberté en termes de droit. Deuxième point commun, ces droits doivent être défendus par un État. Et troisième point commun, cet État doit avoir un pouvoir strictement délimité afin de ne pas aller contre la liberté de ceux qu'il est censé préserver. Alors j'ai essayé de montrer comment cette articulation de ces trois points communs, les droits, l'État au service des droits et puis la limite des droits avaient à la fois une ressemblance et puis une différence en termes politiques et en termes économiques.
Oui, et tous les deux aussi s'accordent à reconnaître la dangerosité potentielle de l'État.
Oui, 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 c'est bien pour ça qu'il faut le limiter.
Très bien, bah merci beaucoup Michaël Biziou. Je rappelle le titre de votre contribution à cet ouvrage, c'est à l'articulation du libéralisme politique et du libéralisme économique, le jugement individuel face à l'État chez Locke et Smith. Donc là, on a eu le temps d'en dire que quelques mots, mais je renvoie les auditeurs à la lecture de cet article qui est très très bien écrit et très très clair. Et je renvoie également donc à l'ouvrage collectif dont nous parlons toute cette semaine qui s'appelle La pensée libérale, histoire et controverse, qui est dirigé par le philosophe Gilles Kevorkian et qu'on trouve aux éditions Ellipse. Merci Michaël Biziou.
Merci à tous. Des farces au libéralisme, c'était le programme du jour. Une émission que vous pouvez retrouver sur Internet à la page des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Une émission que vous pouvez retrouver et télécharger comme toutes les autres. Vous pouvez également écouter en ligne toutes les émissions du mois et retrouver notre bibliographie, en particulier les références de l'édition nouvelle des œuvres complètes de Molière dans la bibliothèque de la Pléiade. C'est la suite, demain, de cette semaine sur Molière. On parlera du Tartuffe, comme il se doit, en compagnie de Jacques Lassalle. 10h59 sur France Culture, dans un instant, question d'époque.